Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chills 94.3.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Questions de savoir sur Chiz 94.3. Je suis Jérôme Lizotte, attaché à l'exécutif à l'Allier, l'association des étudiants et étudiantes inscrits au cycle supérieur à l'Université Laval. C'est notre émission hebdomadaire. Je suis accompagné de plusieurs personnes de l'Allier aujourd'hui. Je suis avec Aurèle Fanny Decha-Engelieu, VP aux études et à la recherche. Salut Fanny.
Salut Jérôme.
Comment ça va?
Oh, ça va très bien, comme d'habitude.
Excellent. Fanny, tu es à l'Allier, bien sûr, mais tu es étudiante.
Oui.
Je crois, on confirme. Étudiante au doctorat en relations industrielles.
C'est bien ça.
Quel est ton sujet de prédilection dans ton doctorat?
Je dois l'avoir dit plusieurs fois déjà, mais je travaille sur les parcours d'insertion à l'emploi des réfugiés qui sont sélectionnés dans des camps en Afrique et réinstallés ici au Québec.
Très intéressant. Merci d'être là, Fanny, encore une fois pour, je pense que c'est la troisième semaine de suite. On aime ça t'inviter à l'émission.
Moi aussi, j'aime ça.
Ah, c'est parfait, ça. On s'entend bien. Et j'ai également avec nous Jason Hortman, VP aux affaires externes à l'Allier. Salut, Jason.
Bonjour.
Tu vas bien, toi aussi?
Suffisamment.
Suffisamment, c'est bon, ça. Tu es à la maîtrise en didactique des langues.
Oui.
Quel est ton sujet de prédilection? Même question.
C'est une plateforme en ligne pour faciliter les tandems linguistiques.
Intéressant. Qu'est-ce que c'est des tandems linguistiques?
C'est des échanges one-on-one entre personnes qui vont s'enseigner mutuellement leur langue maternelle.
Oh, cool. Intéressant. Merci d'être là encore une fois, Jason, à l'émission.
Ça fait plaisir.
J'ai aussi à ma droite M. Nicolas Pouliot, président de l'Allier, pas moins que ça. Nicolas, merci beaucoup d'être là toi aussi.
Ben écoute, ça a été compliqué de me libérer pour participer à votre émission, mais je suis là, je viens.
L'horaire d'un président.
Non, c'est ça.
Et tu es à la maîtrise en philosophie.
Oui.
Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement?
Oui, à ce qui paraît, je suis étudiant. Je fais ma maîtrise sur... je fais une lecture comparée de Habermas et Foucault sur la question de la modernité.
Intéressant.
Donc, je m'intéresse à leurs deux interprétations, leurs deux conceptions de la modernité, puis je fais une étude comparée.
Très intéressant. Merci d'être là à vous trois. Bien que vous avez les trois des sujets intéressants dans vos études, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, malheureusement. C'est aujourd'hui, grosse bombe dans l'actualité étudiante et même l'actualité provinciale, nationale. Le rapport de l'enquête sur l'enquête psychologique en santé psychologique, pardon, de universitaire de l'UEC est sorti ce matin. Il y a eu plusieurs sorties publiques de l'UEC, par exemple, en point de presse à l'Assemblée nationale à 10h30. On va en jaser à l'émission avec nos invités. Tout d'abord, je regarde Jason qui est en avant de moi. Qu'est-ce que l'enquête en santé psychologique de l'UEC pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là?
Bien, c'est à l'automne 2018, donc c'est pendant l'année universitaire précédente que l'Union étudiante du Québec a décidé de mener une enquête pan-québécoise sur la santé psychologique étudiante. Il y a presque 24 000 membres de la communauté étudiante qui ont participé à travers le Québec, fait qu'on constate un taux de participation là, d'à peu près 16 %.
Très impressionnant.
Qui est quand même énorme. Là. C'est pas toutes les études qui réussissent à rejoindre 24 000 répondantes. Évidemment, c'est pas toutes les associations étudiantes qui ont participé. Donc, parmi les associations étudiantes participantes, ça donnerait un taux de participation encore plus élevé que ça. Là. C'est assez fascinant. L'enquête s'appelait « Sous ta façade » et puis l'objectif, c'était de trouver des informations sur l'état de la santé psychologique des personnes qui étudient à l'université pour permettre à l'Union étudiante, aux associations étudiantes du Québec d'en venir à des recommandations, des revendications plus informées, plus éclairées, puis appuyées sur une base solide pour permettre de travailler sur ce dossier-là, puis d'améliorer le dossier de la santé psychologique étudiante.
Très intéressant. Je pense que l'Union étudiante du Québec s'est inspirée d'une autre enquête psychologique qui s'était faite précédemment dans une association étudiante, si je me trompe pas.
Oui, c'est en plein ça. Ça, c'était en 2016, donc 2 ans auparavant, il y avait une enquête qui s'appelait SAVA, qui avait été menée par la FECUM, c'est la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Eux autres avaient collaboré avec le Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Et puis, il avait trouvé que 22 % de la population étudiante de l'Université de Montréal avait rapporté le vécu de symptômes dépressifs vraiment suffisamment sévères pour avoir besoin d'un soutien médical ou psychologique immédiat. Donc, dans l'optique de si c'est comme ça à l'Université de Montréal, comment que c'est ailleurs? Mais la question se posait, est-ce qu'on peut étendre ce genre de recherche-là à l'ensemble de la population universitaire au Québec? Et c'est ce qu'on a fait.
Vraiment intéressant, surtout 24 % de participation. 24 000 étudiants, par contre, qui ont répondu, c'est énorme. Je pense qu'on a un échantillon représentatif ici. Je ne suis pas mathématicien ni statisticien, mais je pense que oui.
C'est la plus grosse enquête étudiante jamais réalisée au Québec. C'est quand même important de le mentionner.
Vraiment impressionnant. Et ça a pris un an, colliger les données, rédiger le rapport, les statistiques, les recommandations. Donc, vraiment, là-dessus, chapeau à l'Union étudiante du Québec qui a fait un gros travail. Et on le voit aujourd'hui avec l'impact que ça a dans le monde médiatique. Quels sont les indicateurs psychologiques qui ont été évalués dans cette enquête-là? Parce qu'on parle de santé mentale, des fois, ça peut être dur à qualifier, à quantifier. Donc, qu'est-ce qui a été évalué dans cette enquête? Je regarde Fanny qui est à ma gauche.
Il y a eu à peu près 4 indicateurs qui ont été considérés ici. Il y avait la détresse psychologique, des symptômes dépressifs, l'épuisement émotionnel et les comportements suicidaires. Pour la détresse psychologique, ils ont vu plus dans l'étude comme un ensemble d'émotions négatives là, qui vont persister dans le temps. Et voilà, donc là, ils ont parlé de dépression, puis l'anxiété. Mm-hmm. Puis au niveau des symptômes dépressifs, ils considéraient plus comme des épisodes de tristesse, de désespoir, de manque d'énergie, qu'ils pouvaient considérer. Puis ensuite, au niveau de l'épuisement émotionnel, ils l'analysaient plus comme une composante de l'épuisement professionnel. Mm-hmm. Puis les comportements suicidaires, c'était plus davantage des idéations suicidaires, des tentatives de suicide. Et le terme de suicide ici, qui désignait bien sûr tout comportement suicidaire non mortel et tout acte d'auto-intoxication, automutilation et auto-agression.
Donc, c'est vraiment des sujets très, très, très délicats qui ont été abordés dans ce rapport-là. Mmh. Et je pense, pour ce qui est de la détresse psychologique, des chiffres rapidement, je pense que ça dit que 58 % des étudiants universitaires subissaient un taux de détresse psychologique assez élevé pour avoir besoin d'intervention rapide. Donc, c'est quand même très, très, très alarmant. Même chose pour le comportement suicidaire, c'est plus élevé que la moyenne québécoise. Le rapport, en fait, comparait les étudiants universitaires avec une enquête de l'ISQ de 2016 qui avait comparé la population québécoise moyenne. Donc, vraiment alarmant. Et encore une fois, je relance Fanny sur une autre question. Le rapport a été un peu plus spécifique aussi, c'est-à-dire qu'on a évalué la situation des étudiants à besoins particuliers. Je mets ça en guillemets parce que c'est ce qu'il disait dans le rapport. De quoi qu'est-ce qu'on entend par étudiants à besoins particuliers?
Ils ont identifié 8 groupes d'étudiants à peu près. Donc, c'est des personnes qui sont issues de la diversité de genre. Mm-hmm. Donc, dans la diversité de genre, effectivement, on peut inclure les diversités sexuelles. Puis, les femmes aussi, qui parfois ont des statuts précaires, c'est des étudiants féminines. Mm-hmm. Puis, les personnes aux études en situation de handicap. Puis, les personnes issues de la diversité sexuelle, on en a parlé, effectivement, ça rejoint un peu le premier groupe. Mm-hmm. Les personnes aux études de première génération. C'est toute une question d'adaptation au retour des études, effectivement. Puis les parents étudiants aussi. Il y avait des personnes provenant de l'international, des étudiants internationaux qui vivent aussi leur défi d'adaptation et d'intégration. Les personnes appartenant aux minorités ethniques. Et aussi, enfin, le dernier groupe, s'il me semble bien, c'était les personnes des communautés autochtones. Mm-hmm. Puis... pour résumer un peu les enjeux généraux qui sont rencontrés par ces personnes-là, c'est en plus des défis du stress général que rencontrent les étudiants à l'université en termes de performance et de compétition qui sont instaurés dans les universités et qui touchent tous les étudiants, ces groupes spécifiques-là sont davantage vulnérables parce que c'est des groupes qui subissent parfois l'exclusion. Et qui ont d'autres contraintes, des contraintes financières aussi, qui sont parfois accentuées, par exemple, chez des étudiants internationaux qui viennent ici et qui n'ont pas de bourse et qui doivent financer leurs études. ou des étudiants justement qui sont issus de la diversité sexuelle et qui subissent aussi parfois beaucoup de discrimination et qui n'ont pas de possibilité justement de se mettre en avant. On a parti justement quelques mémoires pour essayer de documenter les enjeux, donc des mémoires sur les LGBT qui est produit par notre collègue Lydia Arsenault qui va être à point bientôt. Mm-hmm. On a produit un mémoire effectivement sur les étudiants internationaux également.
Tout à fait, oui.
Oui, ça c'est pour voir un peu, on a pu documenter les enjeux là-dessus, puis on a vu vraiment que c'est des enjeux liés à la réussite scolaire, discrimination, de financement des études, des enjeux culturels. Puis on a terminé récemment un mémoire sur l'employabilité des doctorants, parce qu'il faut remarquer qu'eux aussi, ils ont un autre type d'enjeu, c'est leur insertion sur le marché de l'emploi, c'est le financement de leurs études, c'est parfois les questions d'encadrement, du plan d'encadrement avec leur direction de recherche. Donc tout ça, c'est des groupes vulnérables que couvre l'enquête et qui nous ont aussi particulièrement intéressés en tant qu'alliés.
Oui, en effet, c'est ça, l'Allié, à la fond, a publié plusieurs mémoires reliées à ces enjeux-là. Et en fait, c'est triste à dire, mais les chiffres qu'on voit dans l'enquête de ce matin, dans les résultats de l'enquête de ce matin, ne sont pas tant surprenants. Parce que tout le monde qui a vécu un peu la vie aux études supérieures, que ce soit au premier cycle, deuxième, troisième ou même au postdoc, on les voit et on dit, ben oui, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on subit. Donc, c'est quand même très, très alarmant. Et c'est encore pire pour les étudiants à besoins particuliers, comme le dit le rapport. On parle justement d'étudiants, de financement de la recherche et tout ça. L'Allié et l'Association étudiante des étudiants au cycle supérieur, je vous l'annonce. Qu'est-ce que le rapport dit, justement, plus spécifiquement sur les étudiants au cycle supérieur à l'Université Laval et partout au Québec?
Oui, par rapport à ça, en fait, comme pour d'autres... comme pour les étudiants qui ne sont pas nécessairement au cycle supérieur, l'enquête, c'est important de le mentionner, a aussi relevé certains facteurs, en fait plusieurs facteurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels, qui viennent influencer le bien-être psychologique des étudiants. Il faut aussi comprendre, puis c'est une mise en garde qui est importante à faire, c'est que ces facteurs-là sont pas... Il n'y a pas un lien de corrélation entre ces facteurs-là et les indicateurs de bien-être psychologique. Le facteur vient pas, n'est pas une cause directe au bien-être, mais vient influencer positivement ou non la santé psychologique. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au cycle supérieur, il y a deux facteurs en particulier qui ne sont pas des facteurs personnels relevant de l'individu, mais qui sont des facteurs liés à l'institution scolaire. Ces deux facteurs-là, bien, d'une part, il y a la possibilité d'être authentique dans sa recherche, notamment dans le laboratoire de recherche où l'étudiant en recherche a la plupart du temps travaillé, et également le stress lié à la rédaction. Parce qu'on sait, les étudiants au cycle supérieur, pour la plupart, justement, font de la recherche, ont à rédiger un mémoire ou à rédiger une thèse. Puis le stress qui est occasionné par cette rédaction-là vient influencer leur bien-être psychologique.
Tout à fait, des situations vraiment particulières. Et on parle de stress lié à la rédaction. Je suis presque convaincu, je ne sais pas si le rapport l'étudiait, je ne crois pas, mais que aussi, c'est que ça peut être très stressant faire une maîtrise professionnelle, avoir la pression de rentrer sur le milieu du travail pour une première fois, avoir une expérience de 3 mois qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Souvent, les stagiaires aussi, les tâches ne sont pas très, très définies. C'est un sujet qu'on a parlé beaucoup l'an dernier dans le mouvement étudiant, les stages.
C'est l'encadrement des stagiaires n'est pas optimal non plus.
Clairement. Merci beaucoup. Ça conclut notre petite première partie pour faire un résumé du rapport. On va aller en musique pour réduire la tension liée aux résultats de ce rapport. On y va avec la pluie et le beau temps de Nouvelle Vague. On vous revient tout de suite après.
La vie est faite toujours c'est de nuit. Le temps gris laisse la place à l'éclaircie. C'est ainsi et il faut apprécier autant la pluie et le beau temps. Cette nuit je vais rejoindre mon amant près de lui. Je vais compter plus que le temps. Je m'ennuie, alors je regarde en passant. La pluie est longue de temps. C'est ainsi, après le beau temps, la pluie, le temps gris et sa mélancolie. Sans merci, le ciel fait comme il l'entend. La pluie est le beau temps. Ta-da-da.
Nous sommes de retour à Question de savoir, l'émission hebdomadaire de l'Association étudiante des étudiants inscrits au cycle supérieur à l'Université Laval. Nous parlons encore une fois du rapport de l'enquête sur l'enquête, non, du rapport de l'enquête psychologique de l'Union étudiante du Québec. Je suis toujours accompagné de mes invités. On revient, on continue de jaser de ça. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des résultats, si on veut, qui ont été démontrés ce matin, qu'est-ce qui peut être fait pour justement essayer de prévenir, guérir la santé mentale des étudiants universitaires. Des fois, on met un peu trop la pression sur l'étudiant, la responsabilité sur l'étudiant de prendre soin de lui, bien se nourrir, bien se loger, nanana. Mais il y a des choses qui peuvent être faites au niveau institutionnel. Je regarde particulièrement Jason et Nicolas. Qu'est-ce que l'Université Laval et le gouvernement provincial peuvent faire dans ce dossier?
Tout d'abord, c'est certain que oui, on peut essayer de se responsabiliser en tant qu'individu, mais il faut savoir aussi comment. Il faut savoir comment procéder. Il faut avoir les outils pour le faire. Et puis, on a beau se faire dire qu'il faut adopter des saines habitudes de vie, mais il faut savoir par où commencer. Et puis, cette information-là, justement, peut, et selon moi même, doit aisément venir du côté de l'université et fournir tous les outils possibles pour la réussite universitaire d'un côté, pour la prévention, pour pas que ça se rende jusqu'à les résultats effarants qu'on voit là, mais aussi de pouvoir après ça venir en aide à ceux qui en sont vraiment rendus au point où ça marche plus. Fait qu'à ce moment-là, maintenant qu'on a ces données-là, une des choses qu'on va définitivement faire en tant qu'association étudiante, c'est pas nous autres qui a les moyens d'ouvrir un centre d'aide aux études, et surtout qu'il y en a déjà un à l'Université Laval, qui d'ailleurs dans la dernière année, a réussi à augmenter ses, son taux de réponse de façon significative, qui a réussi à vraiment améliorer la qualité de son service et de répondre à beaucoup plus de demandes que par le passé. Et puis, c'est pas juste un pas, c'est plusieurs pas dans la bonne direction. Ça, c'est, ça vaut la peine de le mentionner. Puis c'est en plein de ça qu'on a besoin. Mais après ça, il faudra voir si c'est suffisant, parce qu'à la lumière des résultats qu'on voit là, ça se peut que même ça, avec toute la belle énergie qui a été mise là-dedans, qu'il faille aller encore plus loin. Pour ça, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ça prendrait du financement, ça prendrait une, des allocations budgétaires. Après ça, il faudra voir d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est le gouvernement qui va devoir agir et puis allouer plus d'argent aux établissements d'enseignement pour pouvoir subvenir aux besoins en santé psychologique de la population étudiante? Ce sera à voir. Et puis sinon, du côté de l'Université Laval, il y a la mise en place aussi d'un plan d'encadrement pour aider à diminuer un peu ce stress-là, surtout au cycle supérieur, pour qu'est-ce qu'il y a l'encadrement de la recherche et des rapports avec la direction de recherche et les étudiantes qui sont en recherche.
Tout à fait. Ensuite, pour ce qui est justement du centre d'aide aux études, est-ce qu'il y a des améliorations qui pourraient être faites au centre d'aide aux études? On sait que ça a l'air très... je cherche le mot...
Très, oui.
Il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser ce service-là.
Ouais, en grande demande, c'est ça.
Exactement. Merci, ouais. Nicolas. C'est en grande demande et ça ne semble pas arriver à bout de ces demandes-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de ce centre d'aide aux études-là?
Oui, bien, en fait, le centre d'aide aux études, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu toute une restructuration qui a été accomplie l'année dernière. Mme Caro a revu un peu la façon dont les demandes sont traitées au centre d'aide, ce qui a permis des traitements plus rapides pour certaines demandes. Puis il faut saluer l'amélioration du traitement des demandes du centre d'aide. Souligner ce bon coup-là. Tu sais, notamment, ce qu'on comprenait, c'est que c'est pas tous les étudiants puis toutes les demandes qui doivent nécessairement être traitées individuellement. Il peut y avoir des thérapies de groupe qui sont tout aussi efficaces que des thérapies individuelles, ce qui a permis un traitement plus rapide de certaines demandes. Mais on pense quand même qu'il y a toujours moyen d'augmenter les ressources du centre d'aide. Il y a toujours moyen d'y accorder plus de financement afin qu'il y ait plus de professionnels qui y travaillent. Donc, évidemment, pour nous, le financement du centre d'aide aux étudiants doit augmenter afin de répondre à la demande. Et puis ça, évidemment, c'est dans une perspective d'améliorer la guérison de la détresse psychologique, mais comme le disait Jason, en prévention également, ce qui pourrait être fait par l'université, c'est rendre obligatoire un plan d'encadrement au cycle supérieur qui doit obligatoirement être ratifié par la direction de recherche et les professeurs. Donc, aucun professeur et étudiant ne pourrait ne pas en signer d'un. Et puis, comme le disait Jason également, ben, tu sais, tout ça, au fond, toutes ces mesures-là, toutes le plan d'action qu'il y aura à mettre en place l'université en matière de santé psychologique, bien, il faudra le financer, il faudra avoir du financement pour mettre en application toutes ces actions-là.
C'est le nerf de la guerre.
Et c'est ça, c'est le nerf de la guerre, le financement là-dedans. Puis nous, on pense que, oui, le gouvernement doit accorder un financement à l'université, mais on pense également que l'Université Laval pourrait se doter d'une enveloppe spécifique fermée à la santé psychologique. Et on espère que l'université sera ouverte à cette demande.
Je parlais en première partie justement de que les résultats n'étaient pas très surprenants. Ben, c'est pas très surprenant non plus parce qu'à l'Allier, on a fait un mémoire justement sur la santé mentale, les services de santé mentale offerts à l'Université Laval. Et ben, ce qui sort, c'est justement qu'il y a justement un engouffrement, il y a un manque de services qui est pas. Qui, des fois, on comprend que ça peut être difficile. Et là, on voit les résultats aujourd'hui qui démontrent justement ce manquement-là. Et justement, niveau plan d'encadrement également, le stress lié à la rédaction, on en parlait plus tôt, est un des facteurs de risque les plus élevés, je crois, dans le rapport de l'UEC, expliquant justement le niveau de détresse psychologique. Donc ça, c'est aussi un autre gros enjeu au cycle supérieur parce que ça peut être vraiment lourd avoir une direction de recherche qui répond pas, on sait pas c'est quoi les attentes, on flotte un peu dans le néant. Donc ça peut être un énorme stress et même que le manque d'encadrement au cycle supérieur peut mener à l'abandon complètement des études universitaires. Et je crois pas que c'est ce qu'on veut, ni même ce que l'Université Laval souhaite non plus.
Cet encadrement aussi, il faut toujours le voir dans la perspective où c'est à la fois bénéfique pour l'étudiant, mais aussi pour le professeur. Je veux dire, quand les tâches sont claires, quand les rencontres sont claires, quand le financement est clair, c'est bénéfique pour l'étudiant et le professeur.
Tout à fait. C'est ce qui mettrait à peu près fin à la discussion autour des résultats de l'enquête en santé psychologique. Je tiens à remercier les personnes qui étaient présentes à l'émission. Jason Hardman, VP aux affaires externes à l'Allier, qui vient de quitter parce que, justement, il y a quelque chose à faire à l'externe, j'imagine. Merci, Jason. Aurèle Fanny de Chat Engelieu, VP aux études à la recherche. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir
merci,
été
Jérôme.
Là. Et Nicolas Pouliot, président de l'Allier, merci d'avoir été là.
Merci, Jérôme.
Encore une fois. Je vous rappelle que l'Allier a des activités. On fait des choses. On est une association étudiante. Plusieurs activités ludiques qui s'en viennent pour justement décompresser de toute cette folie-là autour de la santé mentale universitaire. Au Fou Allier, le 6 décembre prochain, il va y avoir un karaoké. Et c'est le deuxième karaoké de l'histoire de l'Allier. Le premier a été un correct succès. C'est un peu un euphémisme. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. Donc, on vous invite au Fou Allier le 6 décembre prochain. Également, en préparation en ce moment, il y a le party de Noël de l'Allier qui va être au Fou Allier également. Je sais pas pourquoi on aime cet endroit-là. On dirait que...
Parce que le nom ressemble au nom de notre association.
Ouais, c'est un peu hasard en plus. Donc, le 12 décembre, celui-là, le party de Noël de l'Allier, vous allez voir au Fou pour fêter la fin de cette session universitaire. Merci beaucoup d'avoir écouté Question de savoir à la semaine prochaine, 11h30, sur les ondes de Chiz 94.3.
La mer sans piège, ça donne à la ruine, à l'oubli. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sport Opus vient d'ouvrir ses portes à Sainte-Foy. Que ce soit pour la location ou l'achat d'équipements de sport neuf ou usagé, Sport Opus est le meilleur endroit pour économiser. Profitez de rabais en magasin en nous rapportant vos articles de sport usagés en échange de crédits en magasin. Avis aux étudiants, nous avons un cadeau gratuit pour vous. Sport Opus Sainte-Foy, 2323 Galvani, coin Néré-Tremblay, à quelques minutes de la pyramide.
Faites toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. L'épée de Damoclès plane au-dessus de ma tête.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Samedi, le 23 novembre, au Bateau de nuit, la chanteuse de Orchestra Criminal vous présente son projet francophone Gigi French avec l'album La Boue, disponible partout dès maintenant. De sa voix rock typique, Gigi French nous offre des compositions jazz swing bien ancrées dans la tradition de la chanson française. Samedi, le 23 novembre, au Bateau de nuit, Gigi French, première partie, Pink Breeze. Plus de détails sur gigifrench.com, 10 $ à la porte.